dans l'étude du livre de l'Apocalypse, nous arrivons à la fin d'une terrible période de jugement. Période qu'on appelle la Grande Tribulation. Nous avons vu que cette période de 7 ans avait été prophétisée par Daniel. C'est ce que nous appelons la 70e semaine, la 70e période de 7 ans. Et nous avons commencé à voir tous les cataclysmes, les catastrophes qui se produisent pendant cette période. Nous avons rencontré des personnages peu fréquentables. Net. Notamment l'Antichrist, ce dictateur mondial. Nous avons vu qu'il serait issu de l'Empire romain restauré. Nous avons aussi rencontré le faux prophète et qui forme avec le dragon, le serpent ancien ou le diable, une espèce de trinité diabolique. Nous sommes rendus au chapitre 17 et 18. Qui décrivent la chute de Babylone. En étudiant dans l'ensemble de la Bible ce que représente Babylone, on a vu que Babylone la Grande, ça désigne un système d'idolâtrie qui a essentiellement deux composantes. Et ces deux composantes vont arriver à la maturité dans les temps de la fin. C'est d'abord un système religieux mensonger. Et le deuxième, c'est un système politique et économique rebelle à Dieu. Le chapitre 17, nous l'avons étudié la semaine dernière. Il décrit la chute du système religieux. Nous avons vu qu'il est issu des religions anciennes de Babylone. Et qu'il s'est formé en un grand rassemblement œcuménique. Qui en fait est coupé de Dieu. Ce système religieux est soutenu au début de la première période de la Grande Tribulation. Par l'Antichrist. Mais au milieu de la Grande Tribulation, les choses se retournent. Et en fait, l'Antichrist et les rois de la terre se retournent contre ce système religieux et le détruisent. Parce qu'en fait, et c'est là tout le sens de l'histoire, le diable veut être adoré, lui. Et c'est lui qui anime l'Antichrist. Et donc, par l'Antichrist, il peut recevoir la louange qu'il a toujours recherchée. Donc, au milieu de la Grande Tribulation, l'Antichrist va faire adorer son image dans le temple à Jérusalem. Nous avons vu en fait que ce système religieux C'est l'incarnation même de la religion avec tout ce qu'elle a de mauvais. Tout ce qui est rituel. Tout ce qui est hypocrisie. Tout ce qui éloigne les hommes de la simplicité de la relation avec Dieu. Nous avons vu le grand contraste avec les paroles de Jésus. Qui criait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Chapitre 18 maintenant va décrire la destruction du système commercial et politique. Nous avons vu aussi la semaine dernière que Babylone, c'était à l'origine la tour de Babel. C'était donc le symbole de la construction de cette tour qui était un symbole de la rébellion de l'homme contre Dieu. Parce que Dieu avait demandé aux hommes de se multiplier, de se disperser à la surface de la terre. Nous avons vu dans la Genèse qu'ils ont dit non, nous n'allons pas faire ça, nous allons rester au contraire tous unis. Et nous allons construire une grande tour pour monter jusqu'aux cieux. Certaines prophéties de l'Ancien Testament pourraient laisser à penser que Babylone ne devrait jamais être construite. Dans Ésaïe 13, on ne va pas s'y tourner, mais pour votre information, et Jérémie 51, on pourrait penser que Jérusalem va être détruite. Je vais juste lire un passage qui dit, c'est Ésaïe 13, 19. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu bouleversa. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus peuplée, de génération en génération. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'en feront plus un gîte pour les troupeaux, mais les habitants du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons, les autruches la peupleront, et les boucs y bondiront. Les bêtes sauvages hurleront contre ses veuves, et les chacals dans ses palais luxueux. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Certains pensent en fait que cette prophétie, même si Babylone a cessé d'être une ville et un empire puissant, et en tout état de cause aujourd'hui elle n'existe pas vraiment, elle n'existe plus vraiment, certains pensent qu'en fait cette prophétie de destruction complète se réfère à cette destruction ultime de Babylone dont nous allons parler aujourd'hui. L'apôtre Pierre envoie une épître en parlant de l'Église qui est à Babylone. Et on pense qu'en fait c'était un nom de code pour désigner Rome. Et c'est vrai que Babylone avait été pour le peuple juif l'ennemi par excellence. Ils avaient conquis Jérusalem et déporté le peuple juif en captivité. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, Rome a joué ce rôle de persécuteur. On a dit que dans les premiers siècles, il y a eu près de 6 millions de martyrs par l'Empire romain parmi les chrétiens. Donc la question, c'est toujours, qu'est-ce que c'est que Babylone alors ? Certains pensent que ça pourrait être une grande ville qui existe déjà, comme New York, Londres, Tokyo. Peut-être que comme c'est la ville de l'Antéchrist, ce sera la ville de Rome. Est-ce que ce sera une Babylone reconstruite près de l'endroit de l'ancienne ? On n'en sait, à vrai dire, rien. Il y a plusieurs hypothèses. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sera le centre du commerce mondial. Ce sera comme la super capitale du monde. C'est intéressant parce que si on regarde l'ancienne Babylone, qui se trouve dans l'Irak moderne, et que l'on trace un cercle d'un rayon de 1000 km autour de cet endroit, on voit en fait qu'on recouvre les territoires qui ont les plus grandes richesses pétrolières du moment. Les villes comme Riyad, Koweït, les Émirats arabes. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Saddam Hussein, qui est entre parenthèses, est toujours là. Aime se faire appeler Nabucodonosor le troisième. Il a construit, il veut détruire les Juifs. Il a commencé des travaux pour reconstruire la Babylone antique. À l'effigie d'un côté de Nabucodonosor, dont il est question dans Daniel. Et puis un portrait de lui-même, où il s'appelle Nabucodonosor III. Et certains pensent qu'il pourrait y avoir justement la construction très rapide d'une grande capitale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais à Las Vegas, qui est aussi une ville connue, qui pourrait être Babylone aussi, ils ont, pour lutter contre la concurrence d'autres villes où il y a des casinos, il y en a de plus en plus aux États-Unis. Ils construisent des choses démesurées. Il y a un hôtel en forme de pyramide, je crois qu'il est plus haut que la pyramide de Gizeh. Il n'y a pas longtemps, à la télévision, ils montraient une reconstruction de Paris à Las Vegas. Avec une tour Eiffel qui mesure quand même 100 mètres de haut, avec un restaurant au dernier étage. L'Arc de Triomphe, l'Opéra Garnier, et c'est drôle à voir parce qu'on voit les monuments, on les reconnaît, la seule différence c'est qu'ils sont tout beaux, tout neufs. C'est ça pour dire qu'ils pourraient reconstruire une grande ville très rapidement aujourd'hui. Nous allons lire ensemble les trois premiers versets du chapitre 18. Page 288 dans la Bible bleue, si vous cherchez. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc après la destruction du système religieux, l'apôtre Jean voit un autre ange qui descend du ciel. Qui a une grande autorité, qui illumine la terre de sa gloire, qui font penser à certains qu'il s'agirait peut-être de Jésus-Christ lui-même. Mais lorsqu'il est question d'un autre ange, il est question d'un ange de même nature que le précédent, ce qui exclut cette hypothèse. Go along. We cannot go along with that. Exactly. Mm-hmm. Tomber. La première fois, c'est le premier tomber. On peut penser que c'est la destruction du système religieux. Et le deuxième tomber, c'est ça va être cette destruction de la cité, la capitale du système économique mondial. On a ici ce qu'on appelle le passé prophétique. C'est-à-dire qu'on peut se projeter dans l'avenir en disant, voilà, maintenant elle est tombée, Babylone la Grande, même si ce n'est pas encore arrivé quand on le dit. Ce jugement sur cette ville, il a plusieurs raisons. Cette ville, qui est en même temps le système, le symbole de tout le système économique, est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Donc, il y a un aspect démoniaque de ce système. Elle est devenue un repère d'oiseaux impurs. Mm-hmm. On peut penser que les oiseaux, c'est gentil, c'est beau. Mais souvent, le plus souvent dans les Écritures, l'oiseau est un symbole du mal. Dans la Genèse, on voit que des aigles essayent d'enlever le sacrifice que Abraham vient d'offrir au Seigneur. Dans la parabole du semeur, on voit que les oiseaux du ciel viennent prendre les graines qui sont tombées sur la route. Et Jésus lui-même nous dit que l'explication, c'est le malin qui est venu prendre, voler la parole. Et donc, Babylone est devenue le quartier général de la dépravation morale. Elle est infidèle spirituellement. Les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite. It's actually the verse itself. Mm-hmm. Les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle. Et finalement, une autre raison pour le jugement, c'est qu'elle est le symbole du matérialisme. On va voir les questions d'intermédiaires, de négociants. des gens qui font du commerce. Et le plus souvent, c'est ces gens-là qui s'enrichissent. Ce ne sont pas ceux qui produisent nécessairement les biens ou les produits. Aujourd'hui, par exemple, dans le tiers-monde, on achète à des prix de misère le café, le cacao, aux gens qui les produisent. Mais nous le payons très cher. Et ça augmente sans arrêt. Mais les gens qui s'enrichissent par ce processus, ce sont tous les intermédiaires. Et donc, on voit le matérialisme et toutes ses conséquences. Paul nous disait, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. L'amour de l'argent. C'est presque ce qui fait marcher le monde aujourd'hui. Même dans les œuvres de bienfaisance, il y a toujours le danger de l'argent. Tous les scandales. Celui de l'ARC, l'Association pour la recherche contre le cancer. Et le fondateur a détourné des millions, des milliards de francs. L'amour de l'argent. Et une chose intéressante, c'est de réaliser qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir l'amour de l'argent. On pense toujours que c'est un problème pour ceux qui sont très riches. Mais des fois, ça peut être un problème, même si on n'en a pas beaucoup. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Est-ce qu'on le garde égoïstement? Peut-être inactif dans un compte bancaire? Juste au cas où? Ou est-ce qu'on le dépense sur nous-mêmes? Je laisse à chacun de s'examiner et de voir un peu si le Seigneur ne voudrait pas qu'on change notre comportement vis-à-vis de l'argent. Après cette voix de condamnation des trois premiers versets, on va maintenant entendre une voix de séparation. Versets 4 à 8, je lis. Et j'entendis du ciel une autre voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront, mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est fort, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. » On voit ici le Seigneur qui appelle son peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il parle à l'époque de la Grande Tribulation. Période à laquelle l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau, aura déjà été enlevés. Et donc il s'adressera à ceux qui trouvent la foi dans cette période de grande tribulation. Il leur dit de se séparer de ce système anti-Dieu. Ça nous rappelle les paroles du même apôtre Jean dans sa première épître. 1 Jean 2, 15 à 17, dans laquelle il est question du monde. Et le monde dont il est question, c'est pas la planète Terre. Il parle du système politique, commercial, religieux qui régit le monde. Un système qui est par nature contre Dieu. Et Jean nous disait, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. 1 Jean 2,15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, premièrement, la convoitise de la chair, deuxièmement, la convoitise des yeux, et troisièmement, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Convoitise de la chair, c'est, on pourrait dire, tout ce qui va satisfaire nos sens. La convoitise des yeux, c'est ce qui va passer par justement nos yeux, qui va nous plaire à cause de l'esthétique, de la beauté. L'orgueil de la vie, c'est tout ce qui nous satisfait intellectuellement, qui nous donne un esprit de supériorité. Ces trois choses viennent du monde. Il suffit de regarder la télévision, d'ouvrir un magazine. Pour voir qu'on utilise justement ces choses comme des ressorts de la consommation. On va nous dire que si on achète cette voiture, alors là vraiment on sera confortable, on pourra s'arrêter en 50 cm à 100 à l'heure. Souvent, il y aura une jolie jeune fille assise sur le capot. Puis on nous dit qu'avec ça, les gens vont nous respecter. Et si on n'est pas inspiré par Dieu, on va tomber dans le panneau. Et ce qui est terrible, c'est de voir que c'est universel dans notre monde. L'épître de Jacques nous dit que toutes les bonnes choses sont des cadeaux qui viennent de Dieu. Et toutes ces choses peuvent être de bonnes choses. Une voiture peut être un outil pour Dieu, pour aller chercher des gens, pour les emmener au culte, pour... Une belle personne peut être un cadeau de Dieu. On peut avoir l'assurance que Dieu nous aime. Si nous faisons ces choses, nous demeurons éternellement. Mais si nous tombons dans le panneau de la publicité, nous tombons dans le babylonialisme. Et ce qui est intéressant, c'est que on se dit oui, mais c'est peut-être un peu extrême cette position. De toute façon, le monde marche comme ça, il faut bien du travail. Et puis Dieu n'a pas l'air, Dieu n'intervient pas, il n'a pas détruit ces choses-là. Regardez ce qu'il est dit au verset 5. Parlant de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices. C'est intéressant parce que le mot accumulé, c'est le mot qui nous donne le mot col en France. Glue. Et donc c'est leurs péchés sont comme des briques d'une tour de Babel. Et ça, c'est un passage très important, plutôt un concept très important. Ne pas prendre la patience de Dieu pour du laxisme ou de l'impuissance. Peut-être que dans votre vie, il y a des péchés. Des péchés dont vous ne vous repentez pas. Si vous vous dites Dieu ne doit pas être trop en colère puisque rien de terrible ne m'arrive. J'aimerais qu'on lise ensemble Romains 2. Passage qui parle du jugement de Dieu. Je vais lire à partir du verset 2 au verset 11. Et en même temps, nous allons voir des caractéristiques du jugement de Dieu qui le sépare de beaucoup du jugement de l'homme. Il y a souvent des injustices, des décisions de tribunaux qui sont annulées par la suite. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi, ceux qui agissent mal, est selon la vérité. Selon la vérité, parce que Dieu sait toute chose. Il est la vérité. Verset 3. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu ? Paul nous dit là que le jugement de Dieu, on ne peut pas y échapper. Continue en disant : Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience ? Sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La patience de Dieu ne doit pas nous faire croire qu'il est impuissant ou qu'il oublie tout. Sa bonté se manifeste par cette patience. Quand je réalise que Dieu pourrait me punir, qu'il a tous les droits de me punir, mais qu'il ne le veut pas, que j'ai envie de me repentir. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Verset 5, nous retrouvons le même concept que dans l'Apocalypse 18. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. C'est la même idée. Il y a une espèce, ces péchés s'accumulent. Et on pourrait voir la construction presque d'un barrage. Il y a ces briques, ces péchés qui se collent et qui font un barrage. Et un jour, la digue va se rompre. C'est le trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Verse 5. That's the treasure. Il rendra chacun selon ses œuvres. Verset 6. Verset 7. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour tout âme humain qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec, tous les hommes. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Donc ce concept de la colère de Dieu qui attend un point et qui explose. Un passage solennel de Paul encore, c'est dans Galates 6, qui nous dit, ne vous y trompez pas, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair récoltera, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. The flesh. To the spirit. Eternal life. On voit qu'il est dit d'abord de payer Babylone comme elle a payé. Verset 6. Au début, c'est payer-la comme elle a payé. C'est la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Qui, en fait, était destinée à contrôler l'escalade de la violence. Parce que vous l'avez sans doute vérifié dans votre vie, si on vous donne un coup de poing, punch you. On ne se contente pas d'en retourner un seul. Mais ici, la faute est tellement grave qu'il double la punition. Verser, lui, au double dans la coupe où elle a versé. Verset 6. Et on voit cette fausse sécurité. Verset 7. Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai point de deuil. Et c'est vrai que souvent, les gens les plus riches ont une fausse confiance dans leur argent. Une certaine arrogance. Et on sait qu'un esprit arrogant précède la chute. C'est le proverbe 16. L'orgueil aussi précède le désastre. Et finalement, verset 8, il est fort le Seigneur Dieu qui l'a jugé. N'oublions pas que le Seigneur est puissant. Dans l'amour, mais aussi dans le jugement, si besoin est. Maintenant, nous allons voir des voies de lamentation à partir du verset 9. Je vais lire jusqu'au verset 19. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'inconduite et au luxe pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. Retenus à distance par la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville forte, et en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet en ivoire, de tout objet en bois très précieux et en bronze, en fer et en marbre, de la cannelle, des aromates, des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bœufs et des brebis, des chevaux, des chars, des corps et des âmes d'hommes. Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi. Toutes les choses délicates ou éclatantes sont perdues pour toi et on ne les retrouvera plus. Les marchands qui se sont enrichis par elles seront tenus à distance par la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins et tous les travailleurs de la mer se tenaient à distance et s'écriaient en voyant de la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville ? On voit ici tous les gens qui profitaient de Babylone. Pleurer des larmes de crocodile sur la ville, dans le sens où ils ne sont pas peinés pour la fin de la ville, pour ceux qui ont péri. Mais parce qu'ils voient la destruction de leur façon de s'enrichir. Il est intéressant de voir qu'il y a un thème qui revient plusieurs fois, c'est que ils se tiennent à distance par crainte de son tourment. Et certains pensent que là, il s'agit peut-être des effets de radiation nucléaire, peut-être une explosion atomique a détruit la ville. Et donc, ils se tiennent à distance par peur du tourment. On a une description intéressante des cargaisons. C'est intéressant parce qu'on voit que tout le trafic, le négoce qui faisait la richesse, c'était pas des produits de première nécessité. C'est tous des produits de luxe, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, des meubles en bois de valeur. Il y avait aussi des mets délicats. Toutes des choses de luxe. Les choses qu'on trouverait chez Fauchon aujourd'hui. À l'époque de Rome, il y avait aussi des gaspillages incroyables dans le domaine des repas, des richesses répandues et montrées. Oui. paraît que le grand chic, c'était de prendre des perles précieuses. De les dissoudre dans du vinaigre de vin. Et de les boire. Il y avait aussi des festins avec des gésiers de rossignol. They use gizzards of nightingales, birds. Enfin, probablement l'idée c'était que la langue des rouges-gorges, des rossignols était une merveille. Mais pour un banquet de plusieurs centaines de personnes, il fallait des milliers de rossignols qui étaient tués pour des bêtises pareilles. Aujourd'hui, de grandes sommes d'argent sont aussi dépensées bêtement. Je ne sais pas ce que vous pensez du foie gras. Et quand on sait comment c'est fait, quand on sait que c'est plein de cholestérol, on se demande pourquoi on est prêt à payer si cher. Des modes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les conteneurs qui sont charriés sur les gros porte-conteneurs, ils sont remplis de biens qui viennent du Japon, d'ordinateurs, de choses de luxe. Et un autre aspect dans cette cargaison, c'est discrètement à la fin, mais il y a des corps et des âmes d'hommes. Donc il y a comme un esclavage d'hommes, probablement de femmes, traite des femmes, traite is the commerce. Et on sait, il suffit de lire le journal pour savoir que à Nice, il y a des centaines de prostituées qui viennent des pays de l'Est. Donc ce système de Babylone, il est déjà parmi nous. Et ce jour-là, ça sera l'écroulement du dollar babylonien. Et Jésus nous a dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ou que donnera un homme en échange de son âme? Votre âme. Imaginez toutes ces richesses dont on vient d'évoquer, juste une petite frange. Imaginez tout l'or possible dans le monde. Les diamants. Le compte en banque de Bill Gates. Toutes ces choses. Si elles étaient à vous, elles valent encore moins que votre âme. Toutes ces choses vont passer. Votre âme, elle demeure. Certains aimeraient penser qu'elle est annihilée si vous n'allez pas avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. On a vu déjà que la fumée de leur tourment s'élève jusqu'au siècle des siècles. Votre âme, elle demeure. Nourrissez-vous votre âme avec le même intérêt que vous allez faire beaucoup toutes les semaines au marché à Carrefour. Faites peut-être des plans pour votre retraite. Est-ce que vous pensez au futur de votre âme? Les choses sur terre sont pas réjouissantes. Par contre, verset 20, nous allons voir une voie de célébration au ciel. Réjouis-toi sur elle, ciel. Et vous aussi, les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta à la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus aucun artisan d'un métier quelconque. On n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe n'y brûlera plus. Et les voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendues. Car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes sortilèges. Et on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Ça, c'est la destruction finale de Babylone. Il est dit que Dieu nous fait justice en la jugeant, nous les saints, les apôtres et les prophètes. C'est vrai que le système du monde persécute les chrétiens. Peut-être que dans le monde occidental, on n'a pas des persécutions physiques encore. Mais dans le monde entier, il y a plus de martyrs dans notre XXe siècle que dans toute l'histoire de l'Église. Chez Babylone, on a trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et c'est Dieu qui venge les saints. La vengeance est à moi, déclare le Seigneur. Vous vous souvenez du passage où Jésus s'adressait avec force lorsqu'il voyait les enfants qui voulaient venir à lui. Et ses disciples essayaient de les tenir à l'écart. Il leur a dit que s'ils n'étaient pas comme ses enfants, ils ne pouvaient pas venir dans le royaume. Il a ajouté ces paroles, « Si quelqu'un est une occasion de chute pour un de ces petits qui croit en moi, il sera avantageux pour lui qu'on lui suspende au cou une meule de moulin. » On le noie au fond de la terre. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Malheur à l'homme par qui elles se produisent. Wow. C'est intéressant parce qu'on a cette image du petit Jésus bien gentil. Mais c'est un gars costaud. C'est un charpentier de formation. À l'époque, il n'y avait pas de Fenwick, il n'y avait pas de tout un tas d'appareillages. Il n'y avait pas de scie électrique, on sciait à la main. Quand il avait une sainte colère, il pouvait chasser les marchands du temple. Où il était prêt à prendre une grande meule de moulin de 1 mètre de haut, de 30 cm de large, qui pesait près de 20 tonnes. He was ready to do it. Et il disait qu'il vaudrait mieux attacher ça au cou de quelqu'un qui serait un obstacle entre lui et quelqu'un d'autre, notamment les enfants. De la même façon, Une grande meule va être jetée à la mer pour dire que Babylone va disparaître aussi brutalement. Et cette, les versets 21 qu'on a lus, la fin, en fait, je crois, correspond aux prophéties de Jérémie 50 et de Ésaïe. Il n'y aura plus rien, le trou dans l'eau sera refermé. Passage un peu étrange aujourd'hui, j'en conviens. Mais on voit bien la puissance du commerce, la puissance de l'argent sur la vie des hommes, la façon dont l'argent corrompt tout le système. J'ai trouvé dans un commentaire quelques points de recommandation. Pour nous apprendre à vivre dans un système sans être corrompus nous-mêmes. Première chose, toujours considérer que les gens sont plus importants que les choses matérielles. Deuxièmement, se garder de tout orgueil dans nos projets, nos réalisations, nos succès. Troisièmement, ne pas permettre de compromis avec la parole et la volonté de Dieu. Quatrième point qui rejoint le premier, toujours accorder plus d'importance aux gens qu'à l'argent. Cinquièmement, faire le bien quoi qu'il nous en coûte. Good. Et finalement, participer à des activités ou qui produisent des services ou des biens valables. Pas seulement des choses vaines qui répondent aux désirs du monde. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en pourparler avec la société des bains de mer de Monaco. C'est la compagnie du casino. Donc c'est la compagnie qui s'occupe du casino. Et je pouvais peut-être rentrer pour travailler dans leur système informatique. Et j'avais un problème. Je me disais, est-ce que c'est bien vraiment de donner mon énergie, mon temps, mes talents pour encourager les gens qui vont gaspiller leur argent en une nuit au casino? Je n'ai pas eu à prendre la décision parce qu'ils ne m'ont pas pris finalement. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, ce qu'on étudie dans la Bible, même dans l'Apocalypse 18, peut influencer les décisions de votre vie aujourd'hui. C'est ça la merveille de la Bible. Qui croirait, venant d'extérieur, que parler de la destruction de Babylone antique ou moderne, reconstruite, pourrait avoir un impact réel? Et parmi ces conseils, c'est encore éviter l'orgueil. Que ce soit personnellement, que ce soit ça même au niveau d'une église qui cherche à impressionner les autres. Non pas à nous, éternel, mais à ton nom donne la gloire. Et finalement, je terminerai encore par ce merveilleux passage d'Ésaïe 55 qui nous rappelle que les plus belles choses dans la vie sont des choses gratuites. des choses qui ont pu coûter beaucoup au Seigneur. Je vais terminer en lisant Ésaïe 55, 1 à 3. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent, c'est-à-dire dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement sur notre comportement vis-à-vis de l'argent et des richesses. Merci Seigneur que tu ne veux pas que nous nous inquiétons pour le lendemain. Et peut-être parmi nous, il y en a qui s'inquiètent parce qu'ils recherchent du travail. Ils ont besoin d'argent pour continuer à payer le loyer. Seigneur dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Mais parlant des vêtements, de la nourriture, du toit, il nous dit, il dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela nous sera donné en plus.